Les cours du Collège de France, Denis Duboul, chaire Évolution du développement et des génomes.
Bien, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette troisième leçon de ce cours sur les embryoïdes humains. Ce soir, nous allons examiner un peu en détail le deuxième type de pseudo-embryons dont je souhaitais vous parler cette année, à savoir les gastruloïdes. Nous allons donc voir que ce sont, curieusement, à la fois peut-être les moins aboutis de ces structures, puisque, on va le voir, ce ne sont pas des structures qui directement nous inspirent une forme d'embryon, mais des structures qui probablement permettent le plus grand nombre d'études informatives, pour des raisons que je vais expliquer, et c'est probablement le type de pseudo-embryon qui aujourd'hui est le plus utilisé dans les laboratoires de recherche. Alors c'est un protocole qui sera développé au milieu des années 2000, entre 2010 et 2020, par un laboratoire, le laboratoire de Alfonso Martinez Arias, qui à l'époque se trouve à Cambridge, en Angleterre, et qui maintenant est à Barcelone, avec une première version, je dirais, presque définitive, publiée en 2017, c'est l'étude que vous voyez ici en haut, et qui d'abord, évidemment, est consacrée aux souris, comme ce fut le cas pour les blastoïdes, que je vous montrais, dont je parlais la semaine passée. C'est un protocole qui est étonnamment simple, puisqu'il s'agit en fait, en gros, de trois étapes. On sort ici des protocoles extrêmement compliqués qu'on a pu voir la semaine passée, et alors surtout ceux que l'on verra la semaine prochaine pour les embryons intégrés. Il s'agit de prendre entre 300 et 500 cellules ES, d'en faire une petite boule, en fait. Et puis, une fois cette boule réalisées, donc des cellules qui sont évidemment cultivées en milieu qui a du LIF et ce fameux milieu 2I, souvenez-vous, hein, ce double inhibiteur de voie de signalisation, tout ça dans le but de garder ces cellules dans un état le moins différencié possible, donc les plus grandes potentialités possibles. Alors on prend cette boule de cellules et puis après deux jours, on va donner un 24 heures d'un traitement qui équivaut à la voie de signalisation Wnt, c'est ce qu'on appelle un traitement agoniste, donc une molécule qui en fait mime l'action du ligand de Wnt et qui donc va activer la voie de signalisation Wnt. C'est une voie qui, on en a parlé à plusieurs reprises, est extrêmement importante dans le développement. Et au bout de 24 heures, le milieu va être changé et puis on va simplement laisser faire. Et on va observer, donc, fut observé à l'origine par ce laboratoire, un événement tout à fait extraordinaire, à savoir que cette boule de cellules va s'auto-organiser et commencer à produire quelque chose d'assez inattendu, en fait. Alors ce que vous voyez là, c'est les résultats initiaux avec ici cette boule de cellules avant le traitement avec l'agoniste de la voie Wnt, qu'on appelle le chiron. Et en couleur ici, vous voyez l'expression d'un gène qui s'appelle Bracuri, toujours le même, ce gène T ou Bracuri, qui est un gène qui en fait va, dans ce contexte, marquer des cellules postérieures. Et vous voyez que même sans traitement, avec cet agoniste de la voie Wnt, on voit que ces cellules ont une tendance à s'organiser. Puisque vous voyez qu'ici, les cellules qui expriment Bracuri sont en quelque sorte regroupées dans un endroit. Et puis là, on est dans une situation qui est comparable à celle-ci. C'est 72 heures. Mais au lieu de traiter avec le chiron, on a simplement mis le milieu dans lequel le chiron normalement est dilué pour traiter. Donc c'est ce qu'on appelle un contrôle négatif. Donc vous avez en dessous ici, après 72 heures, traitement au chiron, donc avec la voie Wnt activée, donc 24 heures, 48 heures sans activation, plus 24 heures d'activation. Et puis dans le panel intermédiaire, 48 heures sans activation, et puis 24 heures sans activation non plus, mais avec le milieu d'activation. C'est le contrôle négatif. Et vous voyez que déjà dans cette condition, certains de ces gastruloïdes commencent à avoir une polarité avec l'expression de ce gène Braquiuri dans cette partie, alors que d'autres, dans d'autres, c'est moins flagrant. Mais par contre, quand on active la voie de signalisation Wnt, vous voyez que pratiquement 100% de ces objets vont se polariser. C'est un phénomène qui est extrêmement intéressant et qu'on va en anglais appeler le symmetry breaking. C'est un moment où quelque chose de symétrique va, sous l'action de l'activation de cette voie de signalisation, va casser cette symétrie et commencer à avoir une polarité et s'allonger. Alors on le voit très bien ici, ce sont des séquences 48 heures, 72, 96, 120, 144, et on voit que cette boule de cellules, alors je précise bien que l'agonisme de la voie Wnt n'est pas distribué avec une asymétrie, c'est simplement pipeté dans le milieu, donc l'ensemble de ces cellules vont ressentir ce signal, et pourtant on va avoir une auto-organisation. On voit que cette partie-là va commencer à pousser, en quelque sorte, et puis s'étendre. Et lorsque l'on regarde, en fait, cette structure, un peu en virgule, comme ça, on a vraiment l'impression, pour les gens qui ont l'habitude de regarder des embryons de souris, on a vraiment l'impression que cette partie-là correspond, en fait, à la partie la plus postérieure, qui va donc s'allonger, où il y a ces cellules souches qui produisent le futur mésoderme et le futur neuroectoderme. Alors cela prend en gros une semaine, comme vous pouvez le voir, et on peut mettre un microscope dans un incubateur et puis suivre en fait en live le développement de ces gastruloïdes. Et je vais vous montrer un exemple, c'est un exemple qui a été produit dans mon laboratoire en fait, et qui je pense illustre bien cette dynamique de production. Ce que vous allez voir, en fait, c'est le développement d'un tel gastruloïde avec des cellules qui seront marquées en vert. Et ces cellules marquées en vert, vous en voyez déjà quelques-unes ici, à un stade précoce, ce sont des cellules qui ont une GFP, donc des séquences d'ADN codant pour un ARN codant pour une protéine de fluorescence, qui est inséré dans un gène particulier qui s'appelle MESP1. Je mentionne le nom comme ça, mais ce n'est pas très important. Par contre, ce qui est important, c'est de voir ce qui va se passer avec ces cellules vertes, de voir ce qu'elles vont faire, où elles vont atterrir. Voilà. Alors, voilà, vous voyez que cette partie-là va s'allonger. Voilà, vous voyez l'allongement. Et puis, ces cellules vertes vont terminer dans une bande. Alors, je ne veux pas vous repasser le film, parce que c'est pas... si vous êtes intéressé, venez le voir, mais ce ne sont pas toutes ces cellules vertes qui vont migrer à faire une bande, pas du tout. Il y en a qui vont s'éteindre, il y en a qui vont s'allumer, mais le résultat final, c'est une bande. Et la raison pour laquelle cette bande est intéressante, c'est que sur la droite, ici, vous voyez l'expression réelle de ce gène dans un embryon réel. Et vous voyez que ce gène fait une bande qui, en fait, est au niveau exact de la transition entre la partie qui est non segmentée de l'embryon et puis la partie segmentée de l'embryon. Et ce que cela indique, en fait, c'est que dans ce gastruloïde, une immense partie, les deux tiers de ce gastruloïde, à peu près, correspondent en fait à cette partie-là de l'embryon, donc une partie très postérieure. Donc toute la partie antérieure qui donnera le cerveau, les arcs branchiaux, etc., tout ça est absent de ces gastruloïdes. Ce sont vraiment des sortes de représentations expérimentales d'une grande partie postérieure de l'embryon. Alors, pour les neurobiologistes qui s'intéressent à la naissance des neurones corticaux, il ne faut pas travailler avec ce système, bien entendu. Pour les gens qui s'intéressent à la croissance de l'axe antéro-postérieur et à la mise en place des patterns du corps le long de l'axe antéro-postérieur, c'est évidemment un système qui est de choix, puisqu'on évite d'avoir tous ces autres tissus qui vont nous diluer le travail que l'on va faire en biochimie. Je vais vous en montrer quelques exemples. Alors, comment peut-on vérifier, comment peut-on essayer d'établir une correspondance entre, d'une part, ces objets biologiques, des gastruloïdes, et de vrais embryons? À quoi correspondent-ils? À quel âge, à peu près, d'une partie postérieure d'embryon? Pour essayer de répondre à ces questions, on peut faire ce que l'on appelle une analyse en composantes principales de datasets produits par les séquences d'ARN. Donc, ce que l'on va faire, ça semble compliqué, en fait, c'est assez simple. On va prendre des gastruloïdes à des âges différents, 48 heures, 72, 96, etc. Et puis, pour chaque stade, on va séquencer les ARN totaux. Donc chaque stade va être représenté par une énorme librairie de 15 000, 50 000, 60 000 ARN différents qui vont correspondre à ce stade. Et puis on va faire pareil avec des embryons. Donc vous voyez ici, on va prendre des gastruloïdes à des stades différents, faire des séquences, et puis on va faire pareil avec des embryons, soit un embryon à 6 jours et demi, à peu près à 8 jours, 8 jours et demi. Alors dès qu'on arrive à ces stades-là, on peut en fait commencer à les disséquer, donc on peut un peu enrichir en ARN postérieur, puisqu'on sait que de toute façon, il n'y a pas de tête hein, chez les gastruloïdes. Et puis une fois qu'on a tous ces fichiers de dataset, on va faire ce qu'on appelle une analyse en composantes principales. On va demander à un logiciel en fait, de comparer de façon globale ces différents datasets et de regrouper dans un espace à deux dimensions les similarités selon les paramètres les plus significatifs. Autrement dit, on prend un objet avec n dimensions, dans ce cas-là un gastruloïde ou un embryon, et on demande à un logiciel, en comparant tous ces points, d'aplatir sur un espace à deux dimensions en ayant des variables qui cette fois ne sont plus corrélées mais qui nous indiquent quelles sont les variables principales qui sont capables de séparer ou de regrouper ces points. Ça paraît compliqué mais je pense qu'à l'explication ce sera beaucoup plus simple. Alors premièrement, pour être sûr que le système fonctionne, on va toujours prendre deux échantillons voire trois échantillons du même stade de gastruloïde, pour être sûr que dans notre analyse, ces trois échantillons vont se superposer. Si on prend trois gastruloïdes à 72 heures et que ces trois gastruloïdes sont séparés dans notre espace, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc on va prendre soit deux, soit trois copies. Et vous voyez qu'effectivement, alors les petits ronds ici, les cercles représentent des gastruloïdes à des stades différents, et puis les losanges représente les embryons. Vous voyez ici le code de couleur, précoce, tardif. Et vous voyez que les deux ici, les deux échantillons de gastruloïdes, les deux ici, les deux là, donc c'est très très proche. Hein, donc chaque fois que l'on prend deux gastruloïdes du même stade, les deux ronds vont se chevaucher. Vous voyez que pour l'embryon, c'est un tout petit peu peut-être plus éloigné. Hein, et pour une raison assez simple que j'ai déjà mentionné dans ce cours, c'est qu'en fait, les embryons ne sont pas aussi simples à faire pour faire du staging, pour les aligner dans le temps, puisque dans la même portée d'une souris, vous allez trouver parmi les 6, 7, 8, 9 petits, des petits qui auront des stades différents, puisque les fertilisations vont se faire peut-être sur une journée. Donc quand vous prenez deux petits d'une même portée pour faire de l'analyse d'ARN, vous allez avoir une variation qui sera vraisemblablement plus grande que si vous prenez deux gastrulloïdes au même temps, en plus que vous pouvez, de vos yeux, hein, affiner le temps en prenant des formes qui ont la même distance, etc. Alors on voit deux choses. C'est que, premièrement, 34% de la variance est due à une composante temporelle. Donc ça veut dire que si on pose la question, quelle est la première composante qui nous permet de séparer ou de rapprocher ces objets, ces différents objets biologiques, que ce soit des gastrulloïdes, des embryons, etc. La première composante, c'est le temps. Ce n'est pas inattendu. Hein, vous voyez ici que là, on a les gastrulloïdes précoces, 24 heures. Ils sont très proches des gastrulloïdes de 48 heures. Ce n'est pas inattendu non plus, puisque, souvenez-vous, à 24 heures et à 48 heures, les cellules ES sont encore pratiquement des cellules ES. Hein, c'est vraiment quelque chose d'homogène, donc on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une grande différence. Par contre, après, on va rajouter le chiron. On va activer la voie Wnt. Et vous voyez ici que si on prend maintenant des gastrulloïdes à 72 heures, eh bien, ils vont être déjà relativement séparés des gastrulloïdes de 48 heures. Séparés par l'aspect comparatif des qualités et des quantités d'ARN. Hein? Voilà. Donc on voit ici qu'on a une composante temporelle et on voit que cette composante temporelle est la même pour les embryons. Vous voyez que ça passe ici, ici, ici. Alors évidemment, on n'a pas de match là. Pour une raison assez simple, c'est qu'on commence avec des embryons de 6 jours et demi. Et souvenez-vous ce que je vous disais la semaine passée. À 6 jours et demi, les embryons n'ont pratiquement plus de cellules qui ressemblent à des cellules ES, puisque les cellules ES, ce sont des cellules d'épiblastes qui viennent de blastocystes à jour 4, 4 et demi. Et c'est pour ça que lorsque l'on aligne, on voit que les embryons les plus précoces, le petit losange ici magenta, là, eh bien, il va à peu près correspondre à ces gastrulloïdes et pas ceux-ci. Et puis la deuxième composante, qui est presque de 30%, eh bien, c'est justement la différence entre les gastrulloïdes, qui sont là en bas, et les embryons. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que cette différence, cette variante, elle se rétrécit avec le temps. Vous voyez ici, il y a une sorte de merge, donc on descend ici, il y a un merging, là, on descend, ce qui signifie en fait que les similarités entre les gastrulloïdes et les embryons, quand on compare leur contenu en ARN à des stades différents, ont tendance à converger, donc le plus tardif on va, le plus ces objets vont se ressembler en utilisant ces critères, hein, bien entendu, donc les critères d'ARN. Pour être évidemment plus précis et pour savoir de quelle cellule on parle, parce que là, je vous parle d'ARN total, vous pourrez se dire, mais quand on va comparer ces ARN totaux, on compare quelles cellules ? Les cellules de l'endoderme, du tube neural, du mésoderme, des annexes embryonnaires. Donc pour avoir cette réponse supplémentaire, et puis aussi pour augmenter la précision, eh bien on va évidemment passer au séquençage de cellules uniques. Et le séquençage de cellules uniques, j'en avais parlé dans le cours de l'année passée, je vais vous montrer deux images de rappel, en fait, pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas familiers. C'est pas simple, hein, c'est assez compliqué, c'est assez... C'est difficile à visualiser ça vraiment quand on ne travaille pas dans le domaine, mais finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Lorsque l'on a compris une chose essentielle, c'est qu'on peut faire de l'ADN à partir de l'ARN. Nous en sommes incapables, mais les virus, certains virus en sont capables, puisque certains virus ont une enzyme qui est capable de fabriquer de l'ADN à partir de l'ARN. Et donc, lorsqu'on a compris ça, je pense qu'on comprend beaucoup plus facilement comment fonctionnent toutes ces méthodologies de séquençage d'ARN en cellules uniques. Et je vous en présente une ici qui a vraiment, qui, je veux dire, qui a tous les principes généraux de ce type d'approche. Premièrement, un embryon, un gastruloïde, un morceau de foie, peu importe, quand vous voulez faire un séquençage en cellule unique, il faut produire une suspension cellulaire. C'est absolument essentiel, parce que si vous avez encore deux cellules qui sont collées, ça n'ira pas. Vous aurez le séquençage de deux cellules ensemble, il faudra trouver un moyen d'éliminer le fichier. Donc, suspension cellulaire. Une fois que vous avez une bonne suspension cellulaire, vous allez rentrer cellule par cellule dans un appareil de microfluidique. C'est de la plomberie, en fait. C'est de la micro-micro-micro-plomberie. Ce sont des tubes qui ont la taille d'une cellule. Donc, vous ne pouvez mettre qu'une cellule à l'intérieur. Et donc, vous allez rentrer une cellule par ici. Et puis, cette cellule, vous allez la faire se rencontrer avec une bille qui contient des petits morceaux d'ADN, tous les mêmes, chaque bille ayant un morceau d'ADN différent. Donc, vous allez préparer 50 000, 100 000 billes, chacune ayant un morceau d'ADN différent. C'est une amorce, c'est ce qu'on appelle le code-barre. Ces cellules vont se rencontrer et puis on va mettre dedans de l'huile, enfin je vous passe les détails, qui font que la cellule va être en contact très intime, va même rentrer dans cette bille ici. Et puis à partir de là, on va faire éclater le truc et ces petits morceaux d'ADN vont être utilisés comme amorce pour fabriquer de l'ADN à partir des ARN de cette cellule. Donc, à la fin, on va avoir une librairie d'ADN qui tous auront comme séquence, comme petit morceau de séquence à une extrémité, cette amorce. D'accord ? Une fois que vous avez séquencé 50 000 ou 100 000 cellules, eh bien, il reste à simplement demander à un logiciel de trier par amorce. Et puis, les 30 000 séquences d'ADN que vous aurez qui contiennent toutes la même amorce, eh bien, ces séquences-là reflèteront une cellule. Tous les ARN à l'intérieur d'une cellule, à partir desquels on aura fait de l'ADN en utilisant ce barcode qui va rester. Donc, on va se retrouver avec X milliers, dizaines de milliers de fichiers différents, chacun de ces fichiers représentant le contenu d'ARN, ce sont des fichiers, des séquences d'ADN, bien entendu, mais qui représentent le contenu d'ARN d'une cellule. Après, on peut prendre tous ces fichiers et on peut demander de regrouper l'ensemble de ces fichiers dans un espace à deux dimensions. Et c'est ce que vous voyez là, qui n'a rien à voir avec les gastruloïdes. C'est une image que je vous ai montrée l'année passée. En fait, ça représente la séquence, les séquences de cellules uniques d'un bourgeon de membre chez la souris. C'est uniquement pour des raisons techniques que je vous montre ça, parce que c'est plus simple à comprendre. Et vous voyez en bas ici que cette tache grise, qui est colorée ici, mais cette tache grise représente l'ensemble de toutes les cellules qui sont séquencées lorsque l'on prend des bourgeons de membre à 10 jours, 11 jours, 12 jours, 13 jours, 14 jours. On séquence tout ça, et on obtient un total de toutes les cellules séquencées qui sont ces cellules grises. Et puis maintenant, on pose la question, où se trouvent les cellules que l'on a séquencées à partir du jour 10? Ben, vous voyez la couleur là, ces cellules, elles sont là. Elles sont bleues et violettes là. D'accord? Donc on fait un mapping, une cartographie, on va demander toutes les cellules qui ont un barcode qui correspond aux cellules qu'on a isolées au jour 10, où est-ce qu'elles se trouvent sur ce schéma? Vous voyez, elles se trouvent là. Alors après, on peut regarder le contenu en ARN, évidemment, puisqu'on a l'ADN. Et puis, on peut déterminer de quel type cellulaire il s'agit. Et vous voyez que dans ce cas-là, eh bien, on a ces cellules P3, P2, qui sont P des progénitrices. Évidemment, c'est les plus précoces, donc ce sont des progénitrices. Après, on peut faire pareil avec les cellules qu'on a isolées à jour 14. On se dit, les cellules qui ont des barcodes associée aux cellules qu'on avait disséquées au jour 14, où les retrouve-t-on en termes d'ARN ? Bien, vous voyez que cette fois, on les retrouve ici, à l'opposé. Et à quoi correspondent-elles ? Vous voyez qu'elles correspondent à C5, C4, etc. Ce sont des différents types de chondrocytes, donc des cellules différenciées. D'accord ? Donc, on peut avoir à la fois une progression temporelle. On voit que ces cellules-là, plus tard, vont se transformer en cellules-là. On est ici dans les progéniteurs. Vous voyez aussi qu'à jour 14, on n'a plus du tout de progéniteurs. C'est gris, il n'y a pas de couleur. Parce qu'au jour 14, il n'y en a plus. Ils ont tous été utilisés pour faire des chondrocytes, etc. Donc c'est vide. Donc c'est important que vous puissiez visualiser en fait que cet espace gris que je vous montre, c'est un espace qui est temporellement aplati. Tous les jours d'analyse, du jour 10 au jour 14, sont aplatis ensemble et vous donnent cet espace gris. D'accord ? C'est l'addition de ces cellules ici, puis de ces cellules-là, puis de ces cellules-là, puis de ces cellules-là, puis de ces cellules-là. Sauf que ce n'est pas totalement additif parce qu'il va y avoir des cellules positives ici qu'ils seront également ici. Puisqu'une cellule à 10 jours ne va pas forcément changer à 11 jours. Il y en a qui vont continuer à faire ce qu'elles font. D'accord ? Voilà. Alors, ce qu'on va faire pour ces gastruloïdes, eh bien, c'est appliquer cette même méthodologie et mapper sur une collection totale de cellules embryonnaires de souris. Et cette collection totale, vous la voyez à gauche ici. Ce que vous voyez en rouge, en fait, alors vous ne voyez pas les points, mais chaque point serait une cellule. Il doit y en avoir quelques centaines, peut-être de milliers dans ce... Okay. Donc cet aspect rouge, c'est en fait une collection de points rouges, chacun des points représentant une cellule. Et ces cellules, vous voyez qu'elles ont été dérivées d'embryons de souris à jour 6,5 jusqu'à 8,5. Donc en fait, ce que vous voyez en rouge ici, c'est assez étonnant finalement, c'est l'ensemble de tous les types cellulaires que vous allez trouver dans un embryon entre le jour 6,5 et le jour 8,5. D'accord ? Si vous demandez à votre ordinateur de vous montrer où se trouvent, par exemple, les précurseurs des cellules germinales à 8 jours et demi, eh bien, il va vous montrer directement qu'elles vont être par là, ou par là, ou par là. D'accord ? Puisqu'on connaît l'ARN de chacune de ces cellules. Sur la droite, ici, vous voyez cet espace gris, c'est le même. Ici, il est en rouge parce que c'est l'ensemble des cellules, là. Voilà. Et en rouge, ici, vous voyez une cartographie des cellules qui ont été disséquées de la partie la plus postérieure d'un embryon de souris. C'est du mésoderme présomitique, donc c'est, souvenez-vous de cette bande que je vous montrais du gène MESP1, c'est ce qu'il y a en dessous, en fait. En gros, c'est ce qu'il y a en dessous. On coupe, dissèque, cellule, séquence les cellules, et la question est, où ces cellules mappent-elles sur cet espace embryonnaire? Et vous voyez qu'elles mappent ici en rouge, donc toute cette partie à gauche, là, tout ce qui est rouge ici, représente en fait la partie la plus postérieure de l'embryon. Il y a différents types, il y a des NMP, souvenez-vous, il y a des dérivés de progéniteurs de mésoderme, des progéniteurs du tube neural, mais vous voyez où elles sont localisées, toutes sur la gauche de cet espace. Et au milieu ici, c'est le travail d'Alexandre Méran dans le laboratoire. Au milieu ici, vous avez la même approche en prenant des gastruloïdes entre 96 et 168 heures. Et ce que vous remarquez tout de suite, c'est la correspondance qui existe entre cette coloration-là et cette coloration-là. Alors celle-ci est beaucoup plus forte, mais vous voyez que les cellules occupent à peu près le même espace sur la gauche. Vous voyez ici, il y a ce petit morceau-là, par exemple. Bon, on le retrouve ici. Oups. On le retrouve ici. Cette coloration, vous avez là. On la retrouve ici, etc. Donc cela veut dire qu'en fait, les types cellulaires que l'on trouve dans ces gastrulloïdes sont pratiquement identiques aux types cellulaires que l'on trouve dans la partie postérieure de l'embryon. Ça, c'est la conclusion de cette étude. Donc c'est donc une méthode rationnelle, expérimentale, pour dire ce que je vous disais au tout début, quand on regarde l'allure de ce gastrulloïde, on a l'impression que c'est postérieur. C'est une impression. Là, c'est une démonstration. On voit qu'effectivement, ça correspond à la partie postérieure. Il y a une chose qui est, absolument, à mon avis, absolument étonnante dans ces résultats, et dont on ne parle pas souvent dans la littérature, en fait, c'est que vous voyez qu'il n'y a, dans le cas des gastrulloïdes ici, aucune cellule rouge qui se trouverait en dehors de l'espace des cellules grises. Une sorte de d'îlot, un archipel quelque part ici. Donc, cela veut dire qu'en fait, ces gastrulloïdes ne peuvent produire que des cellules qui existent dans l'embryon. Vous allez me dire, c'est peut-être trivial, mais je trouve ça totalement surprenant. Vous pouvez mettre des cytokines, vous pouvez rajouter des choses dans le milieu. Le gastrulloïde est contraint, il ne peut pas inventer quelque chose, innover, produire un type cellulaire où on se dirait, tiens, ça c'est un type cellulaire, il faut qu'on trouve un nouveau nom parce qu'il n'existe pas. Ce serait facile de le voir. Il suffirait de trouver un point rouge, quelques points rouges, qui ne soient pas superposés à un point gris, puisque les points gris représentent tous les types cellulaires qu'on trouve dans l'embryon de souris. On n'en trouve pas. Et donc la conclusion, c'est que ces gastrulloïdes, finalement, et vous voyez ici ce schéma de couleurs qui illustre bien, en fait, représente la partie postérieure, toute cette partie antérieure, le cerveau n'est pas présent. La bande que je vous montrais tout à l'heure en vert se trouverait, donc vous vous souvenez, cette bande qui était à peu près ici, dans l'embryon, elle se trouverait à peu près à cette position-là. Alors, c'est un objet, ces gastrulloïdes sont des objets assez versatiles, en fait, et c'est un de leurs avantages expérimentaux, c'est-à-dire que selon ce que l'on va mettre dans le milieu, on va pouvoir obtenir des formes, des types de tissus relativement différents. Vous voyez ici quelque chose de flagrant sur la droite, il n'y a aucune trace de segmentation. On ne voit pas ces fameuses sommites, ces blocs qui plus tard donneront nos vertèbres, parce qu'on utilise un protocole qui est un protocole standard à travers lequel on n'obtient pas de segmentation. Il suffit de poser ces gastrulloïdes sur une matrice, ce qu'on appelle un matrigel, on en parlera tout à l'heure, qui est très enrichi en matériel extracellulaire, de la matrice extracellulaire, et ils vont faire des sommites, ils vont faire de la segmentation. Mais à l'intérieur d'un même protocole, la reproductibilité de ces gastrulloïdes est très élevée. Donc ils sont versatiles, mais si l'on utilise un protocole A, on va dans une très grande majorité des cas obtenir un gastrulloïde de type A. C'est évidemment très important pour faire des expériences. Alors tout ça en 2018-2019, et c'est en 2020 que vont apparaître les premiers gastrulloïdes humains qui vont dériver du même laboratoire d'Alfonso Martinez Arias. La conclusion de cette étude, dont je vais vous parler quelques minutes, c'est que les gastrulloïdes humains s'allongent, comme les gastrulloïdes de souris, selon un axe qui ressemble beaucoup à un axe antéro-postérieur, qu'ils semblent aller jusqu'à un stade qui pourrait correspondre à un stade Carnegie 9, c'est une vingtaine de jours à peu près, en gros 2 mm, c'est encore un embryon humain vraiment, vraiment petit, et que par conséquent, ces gastrulloïdes sont des objets vraiment intéressants pour étudier des phases de régulation, souvenez-vous la première leçon qui sont pratiquement impossibles, des phases du développement qui sont impossibles d'accès chez les humains, imaginez-vous. Bon. Alors le protocole utilisé, fondamentalement, n'est pas très différent de celui qui est utilisé pour la souris, mais il y a tout de même des différences notables. Et c'est une constante, et on le verra aussi la semaine prochaine, on l'a déjà vu la semaine passée, c'est que les protocoles qu'on utilise chez la souris pour produire ces pseudo-embryons ressemblent aux protocoles que l'on utilise chez les humains, mais ne sont pas valables. Si on applique strictement le protocole souris pour faire des gastruloïdes humains, ça ne marchera pas. En particulier, vous voyez que le traitement à l'agoniste de la voie Wnt, le chiron, ne se fait pas après agrégation, après 2 jours d'agrégation, mais il se fait avant l'agrégation. Pour des raisons que je suis absolument incapable de vous expliquer, encore une fois, ce sont des protocoles développés de façon semi-empirique, finalement. Mais si l'on n'en met pas avant et qu'on en met après, ça ne marche pas. Là, il faut en mettre avant et puis le conserver après, vous voyez ici, en rajoutant un nouvel inhibiteur, je crois qu'on n'a pas encore discuté, qui est un inhibiteur de la voie ROCK. Alors, peut-être n'est-ce pas trop nécessaire de rentrer dans les détails. C'est, une fois de plus, c'est une kinase, c'est une enzyme, une kinase qui va rajouter des groupes phosphates, qui va modifier, etc. C'est une façon de signaliser. Et c'est une voie qui est particulièrement importante dans l'organisation des cellules elles-mêmes, du cytosquelette, etc. Donc, en mettant cet inhibiteur de la voie ROCK, mélangeant avec le chiron ici, agrégation, encore un peu de chiron, inhibiteur, on arrive à 24 heures, on enlève et on les laisse pousser. Et c'est là que ces gastruloïdes humains vont se développer. Cependant, la majorité de ces gastruloïdes, dans cette étude, vont montrer des problèmes à peu près à 72 heures, ce qui est plus précoce que ce que l'on observe chez la souris, puisque vous avez vu qu'on peut aller jusqu'à 160, pas toujours, mais jusqu'à 160 heures. Donc ce sont des gastruloïdes qui vont s'allonger, qui vont commencer, qui vont ressembler beaucoup à ceux de la souris, mais qui vont avoir une tendance à s'arrêter plus tôt. Alors malgré cela, on peut démontrer que ces gastruloïdes ont une polarité antéro-postérieure évidente en utilisant des marqueurs qu'on a déjà mentionnés. Par exemple, souvenez-vous de ce marqueur CDX. Ce marqueur CDX, c'est un marqueur qui est très postérieur, comme ce marqueur BRA, BRACURI ou T, plusieurs appellations, qui marque les cellules les plus postérieures. Et vous voyez ici en jaune, on a un postérieur, ici un postérieur. Vous voyez ici en bleu, brachyuri, le gène T, postérieur, postérieur. Par contre, vous voyez que le gène GATA6, qui normalement marque la partie antérieure, qui généralement va donner du mésoderme cardiaque, de l'endoderme, bien se trouve de l'autre côté. Donc on a vraiment une polarisation de ces gastruloïdes, de la même façon qu'on peut les voir dans les gastruloïdes de souris. Pour avoir une approche plus précise de cette polarisation et pour essayer d'analyser de façon globale comment les ARN sont distribués le long de l'axe antéro-postérieur, ces auteurs vont faire appel à une technologie qui a été développée il y a juste quelques années, qui est ce qu'on appelle une approche par tomo-seq, autrement dit par séquençage, encore une fois, séquençage de sections tomographiques. Alors, laissez-moi peut-être vous rappeler un mot sur la tomographie. En fait, une approche tomographique, c'est une approche qui consiste à, si vous avez un objet dans l'espace, à reconstituer cet objet en ayant plusieurs angles d'attaque. Hein. Vous pouvez regarder de ce côté, vous allez avoir évidemment un espace à une dimension, combiné avec une autre vue, une deuxième dimension, une troisième dimension, ce qui vous permet de reconstruire un espace. En fait, c'est ça la tomographie. Alors, il y a quelques années, des collègues à l'université à Utrecht, en Hollande, ont développé cette approche de séquençage de tomosec, une approche qui est très intéressante en fait et qui est assez simple à comprendre. Et je vais l'illustrer ici par la publication originale qui utilisait un petit embryon de poisson zèbre. Peu importe, on pourrait remplacer ça par un gastruloïde, ce serait pareil, mais c'est un poisson zèbre. Donc l'idée est assez simple. Vous prenez votre poisson, on va le congeler, pour qu'il soit dur, et puis on va le débiter, comme une sorte de salami. On va faire ce qu'on appelle des coupes serriées, très proches les unes des autres, des coupes histologiques. Et chaque coupe va être numérotée, bien sûr, et mise dans un Eppendorf, séparée dans un tube à essai, séparée des autres. Vous faites 100 coupes, on va finir avec 100 tubes. Et dans chacun de ces tubes, très important, on va rajouter ce qu'on appelle un spike in RNA, c'est-à-dire une petite concentration d'ARN dont on connaît la concentration. C'est pour simplement calibrer l'expérience. Hein. Donc, on va savoir que dans chacun des 100 tubes, on aura toujours la même concentration de cet ARN. Par conséquent, si après avoir séquencé tout le truc, on voit que cet ARN est présent à 50%, ça veut dire que tous les ARN seront présents à 50%. Donc c'est pour calibrer, hein. C'est ça le spiking. Voilà, on prend ces tranches, ces 100 tranches, et on va faire une séquence d'ARN, amplifier l'ADN, etc., simple brin, double brin, séquencé, voilà. Et on va terminer avec un fichier qui va contenir, une fois de plus, 30 000, 50 000 ARN, par tranche cette fois. Donc vous imaginez un salami, vous coupez des tranches, et chaque tranche, vous aurez l'ensemble des ARN qui se trouvent dans chaque tranche. Voilà. Alors en faisant ça, évidemment, vous pouvez savoir que tel ARN A va se trouver dans les tranches de 1 à 18, mais pas de 19 à 50. Donc on saura que l'ARN A est un ARN qui est antérieur. Par contre, à l'intérieur du salami, on ne saura pas où cet ARN est localisé. On saura qu'il est dans la tranche. C'est tout. Donc ce qu'on va faire, c'est de nouvelles tranches. Mais cette fois, le salami, on va le couper comme ça. Et puis après, on le coupera comme ça. Et puis, le plus on produit de tranches et le plus on séquence, le plus on va dans l'espace localiser une population de cellules qui exprimera le même ARN. C'est ça le principe, en fait. C'est un principe assez simple, mais encore fallait-il trouver les conditions pour l'appliquer. Après, vous pouvez séquencer de travers. Et le plus de datasets on accumule, le plus de précision on aura sur les positions relatives de ces domaines d'expression. Je vois que c'est clair. Alors, dans le cas des gastruloïdes, ce laboratoire d'Alfonso Martinez-Arias ne va utiliser qu'un plan de coupe, en fait, simplement pour voir sur l'axe antéro-postérieur quels sont les gènes qui sont exprimés, qui sont enrichis, dont l'ARN est enrichi dans la partie postérieure ou antérieure, et peut-on en tirer des conclusions sur les réseaux de gènes, etc. etc. Et je vais vous montrer deux images. Donc le résultat, c'est, vous l'avez sur la droite, avec ces deux panels ici. Sur la gauche, vous avez la partie antérieure. Sur la droite, vous avez la partie postérieure. Donc un gastruloïde, il serait ici. Et puis, vous avez deux copies de deux gastruloïdes différents, mais sélectionnés au même âge. Hein, c'est toujours pareil, c'est essayer d'accumuler tout de même des points identiques pour voir quelle est la reproductibilité de l'expérience. Et vous voyez que c'est étonnamment reproductible. Alors, en jaune ici, vous voyez une intensité d'expression pour des ARN. Donc, on peut regrouper ces ARN dans des clusters, comme on le faisait pour les séquençages de cellules uniques. Et vous voyez par exemple, ici, ce grand cluster 2, là, eh bien, c'est un cluster de gènes, c'est un groupe de gènes qui vont être exprimés très fortement dans la partie la plus postérieure du gastruloïde et très peu dans la partie la plus antérieure du gastruloïde. Là-dedans, on va trouver brachyuries. Souvenez-vous, je vous montrais tout à l'heure, hein, qui est dans la partie la plus postérieure, il va être dans cette famille, si vous voulez. Et puis, on va trouver d'autres gènes. Ici, vous voyez l'inverse. Ici, vous avez un groupe de gènes qui est exprimé fortement dans la partie antérieure, pas du tout dans la partie postérieure. Vous voyez ici, intermédiaire, vous allez avoir des gènes qui sont exprimés dans une tranche. Là-dedans, on va trouver ce gène MESP1, que je vous montrais, cette tranche verte. Hein. Et ben, cette tranche verte, quand vous sectionnez votre salami, vous allez rentrer dans la tranche pendant un certain nombre de sections et puis sortir de la tranche. Ben, c'est exactement ce que vous voyez là. Hein. On rentre dans la tranche ici, hop, et puis on sort de la tranche. D'accord ? Alors, l'intérêt de faire ça, c'est que ça peut nous donner des informations sur les réseaux de gènes. Parce que intuitivement, on se dit tous les gènes qui sont exprimés dans les mêmes cellules avec la même stratégie, en quelque sorte, en gros, bien peut-être que ces gènes-là produisent des protéines qui, ensemble, font quelque chose. Et vous voyez ici un exemple sur la gauche, où on a un réseau de gènes, alors c'est encore mis par ces auteurs, je ne vais peut-être pas m'attarder là-dessus, mais vous voyez que c'est un réseau de gènes dans lequel ce gène qui produit une protéine FGF8 va inhiber l'activation d'un autre gène qui s'appelle RALDH2 et qui est stimulé par le gène WNT3. Et lorsque l'on regarde de façon totalement objective où se trouvent les cellules qui expriment ces gènes, bien, vous voyez sur la droite ici, on a WNT3 qui est exprimé dans la partie la plus postérieure du gastruloïde qui va activer ce gène FGF8 ici qui, lui, va réprimer le gène RALDH. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas d'expression de RALDH. Donc, on peut commencer à établir des relations épistatiques, des interférences entre les gènes, etc. En dessous, là, vous voyez en fait des sections à travers ces histogrammes, là, où l'on voit par exemple que le gène SOX2, eh bien, ici c'est antérieur, postérieur, moyen, postérieur. Vous voyez que le gène SOX2 va être activé dans des cellules qui sont plus antérieures que les cellules qui vont activer BRAF ou CDX, etc., etc. Donc on peut avoir un niveau de précision sur l'expression de ces gènes qui est tout de même assez intéressant. La deuxième raison de l'intérêt de cette approche, la raison pour laquelle je voulais vous la montrer, c'est qu'on peut sauter d'une espèce à l'autre, puisque, à l'évidence, l'immense majorité des gènes, en tout cas de ceux qui sont actifs à ces stades, sont partagés entre les différents mammifères. Donc on peut dire, faisons ça sur un gastruloïde de souris, faisons ça sur un gastruloïde humain, et essayons de voir au niveau de chaque gène si les processus sont vraiment conservés ou pas. Et c'est ce que vous voyez là. Donc vous avez maintenant sur la gauche ici ce que je viens de vous montrer. Donc c'est un gastruloïde humain qui est donc saucissonné, séquencé, etc. Et sur la droite, vous avez quelque chose de très similaire mais qui vient de la souris. Donc dans chaque ligne, vous avez le même gène. C'est ce qu'on appelle des gènes orthologues. Donc, ils ne sont pas exactement identiques parce qu'ils ont un peu évolué, mais par exemple, vous allez avoir brachyurie humain, brachyurie souris, SOX2 humain, SOX2 souris. Et vous voyez que quand vous regardez ça un peu de très loin, sans focus trop fort de vos yeux, eh bien, ce sont deux patterns qui sont relativement semblables l'un à l'autre. Donc, en règle générale, on a un degré de conservation, et c'est la conclusion que vous voyez là, de conservation du patterning axial qui est très élevé entre les hommes et les souris. Cependant, c'est absolument clair, si vous regardez un tout petit peu plus précisément, qu'il y a des différences qui sont absolument notables. Par exemple, regardez ici, vous avez ces gènes-là qui sont exprimés tout à gauche, très peu à droite. Ici, ils sont plutôt intermédiaires. Regardez par exemple ici, vous avez des gènes qui sont plutôt exprimés antérieurs. Là, ils sont carrément plutôt exprimés postérieurs. Donc, bien que ces gastruloïdes représentent des objets vraiment comparables entre les humains et la souris, bien que la façon dont notre corps se forme, l'axe antéro-postérieur se forme, est très comparable entre les souris et les humains, il y a tout de même des réseaux génétiques qui semblent être implémentés de façon relativement différente. Et c'est une des raisons pour lesquelles, souvenez-vous, ces 13 raisons que je vous donnais à la première leçon, c'est évidemment une des raisons pour lesquelles il est essentiel, à mon avis, d'étudier ces pseudo-embryons humains. Je vous disais précédemment que les conditions de culture pouvaient donner des gastruloïdes relativement variables dans leur forme, dans leur composition. Et un protocole très récent, puisqu'il n'est pas encore publié, en fait, c'est un protocole qui a été déposé sur ce qu'on appelle un archivage de publication actuellement, donc avant même la publication. Ce nouveau protocole illustre vraiment ce point précis et surtout permet de conserver ces gastruloïdes quelques jours de plus en culture. C'est un protocole qui est extrêmement intéressant, qui est dérivé du laboratoire de Jay Shendure, vous voyez ici. Et c'est un protocole qui comprend deux traitements discontinus à l'acide rétinoïque. Alors comment avoir trouvé ces deux traitements, les doses différentes, l'espacement temporel entre ces deux traitements, là encore, j'ai aucune idée, je n'ai pas eu l'occasion de demander aux auteurs, mais on retombe encore dans des approches qui sont des approches empiriques, avec des gens qui vont essayer de faire comme ça, d'attendre une heure, d'attendre deux heures, trois heures, quatre heures, de mettre 10-8 molaires, 10-9, 10-10, etc. etc. C'est vraiment une approche semi-empirique. Alors, pourquoi traiter à l'acide rétinoïque? Je vais prendre quelques minutes pour vous parler un peu de l'acide rétinoïque. Les auteurs précisent que l'acide rétinoïque est en fait une sorte de promoteur du mésoderme, puisque l'acide rétinoïque, et je vais vous montrer ça dans deux minutes, est très actif dans cette région où les somites se segmentent. C'est un petit composé qui est absolument essentiel dans cette partie précise de l'embryon qui est essentiellement une segmentation de type somitique. Et les auteurs disent peut-être que si on rajoutait un peu d'acide rétinoïque, on corrigerait une sorte de biais intrinsèque que pourraient avoir les cellules NMP, ces cellules souches postérieures, qui part vers la différenciation du PSM. Alors, l'acide rétinoïque, c'est une petite molécule qui est lipophilique, c'est un dérivé de la vitamine A, hein, du rétinol, qui est lipophilique, ce qui est important parce que c'est une molécule qui traverse les membranes, les lipides des membranes très, très facilement. Comme je viens de le dire, c'est un dérivé de l'acide rétinoïque, de la vitamine A. La vitamine A que vous trouvez actuellement dans les patates douces, évidemment dans les carottes, les citrouilles, etc. Et c'est une molécule qui a vraiment des fonctions multiples. Peut-être certaines d'entre vous ont suivi les cours de mon cher collègue Hugues Dauté, qui a beaucoup travaillé avec cette molécule, dans un contexte de croissance tumorale, en fait. Là, on est vraiment dans le développement. Le rétinol, cette vitamine A, va être transformé en rétinaldéhyde par des enzymes différents, et surtout en acide rétinoïque par des enzymes qu'on appelle des ALDH, précédemment appelé RALDH. Vous allez voir les deux si vous regardez un peu les littératures et même dans les publications dont je vais vous parler. Cet acide rétinoïque a deux destins, en gros. Il va soit rentrer dans la cellule, rentrer dans le noyau par un système de cargo, etc. Et puis dans le noyau, il va être pris en charge par des récepteurs qui sont ce qu'on appelle des récepteurs nucléaires, parce que ces récepteurs ne sont pas à la surface des cellules comme les récepteurs classiques, ce sont des récepteurs qui sont à l'intérieur du noyau, qui vont lier l'acide rétinoïque, le récepteur RAR, donc qui lie l'acide rétinoïque, et qui va se dimériser avec un autre récepteur qu'on appelle RXR, peu importe finalement, mais ce complexe acide rétinoïque récepteur va s'attacher à l'ADN en amont de cibles géniques et activer la transcription. Donc c'est une voie de signalisation, mais qui est curieuse, qui n'a rien à voir avec les voies classiques où on a un ligand qui lie à l'extérieur, qui va activer des kinases, etc. Pas du tout. C'est une voie de signalisation qui a été en grande partie découverte par Pierre Chambon à Strasbourg au cours des années 80. Alors, l'acide rétinoïque, pendant le développement, est extrêmement important, comme je le disais, dans cette partie-là de l'embryon. Et ce que vous voyez sur la gauche ici, c'est en noir l'expression, la présence d'ARN pour ALDH, donc pour l'enzyme qui fabrique, qui produit l'acide rétinoïque. Hein. Et vous voyez que c'est restreint à cette partie centrale. Alors, il y a d'autres endroits dans l'embryon, mais c'est restreint à cette partie centrale ici. Et cette enzyme est absente de la partie la plus postérieure. C'est ce que vous voyez là, en vert, vous avez la présence de cette enzyme qui est absente dans la partie la plus postérieure. Pourquoi il est absent dans la partie la plus postérieure? Parce que l'acide rétinoïque donne un signal positif pour la différenciation. Et donc si par malheur, vous avez de l'acide rétinoïque qui se trouve dans cette partie-là, où se trouvent les cellules souches, ces fameuses cellules NMP qui produisent le matériel, qui font descendre l'axe, hein, qui vont remplir le mésoderme et qui vont remplir le tube neural. Si par malheur vous donnez de l'acide rétinoïque dans cet endroit-là, il va y avoir de gros problèmes. Et donc il faut à tout prix éviter la présence d'acide rétinoïque ici, et cela se fait au travers essentiellement de plusieurs façons en fait. Il y a ceinture et bretelles et ceinture. Mais une des raisons, c'est d'avoir une absence de cette enzyme ici qui produit l'acide rétinoïque, on n'en a pas là. Puis l'autre raison, c'est qu'on a une enzyme ici qui s'appelle CYP26 et qui est l'enzyme qui dégrade l'acide rétinoïque et qui produit des métabolites qui ne sont plus actifs. Donc si par malheur, il y a quand même de l'acide rétinoïque qui arrive dans cette partie, CYP26 va dégrader cet acide rétinoïque. Si on ne fait pas ça, eh bien, ou si cette frontière ici, qui est extrêmement sensible, si cette frontière est modifiée, imaginez par exemple que cette frontière se trouve ici, donc qu'il y ait un défaut d'acide rétinoïque dans cette partie-là, ou bien si cette frontière se trouvait ici, autrement dit qu'il y ait un excès d'acide rétinoïque dans cette partie-là, dans les deux cas, on produit des tératologies, on produit des problèmes. Alors, chez les humains, ça a été bien décrit. En particulier, l'acutane, hein, une forme d'acide rétinoïque, l'isotrétinoïne, qui est rentrée sur le marché aux États-Unis en 1982. Vous savez que l'acide rétinoïque est un composant extrêmement actif pour traiter l'acné, l'acné très fort, vésiculaire. Et c'est en grande partie à cause de ça qu'on s'est aperçu que finalement ça crée de très très gros problèmes pour les femmes qui étaient enceintes. Hein. Vous le voyez ici, des risques de 40% d'avortements spontanés, 4 à 5% de mortalité, et puis surtout des malformations à la naissance qui touchaient plusieurs endroits, etc. Donc il est absolument essentiel que cet acide rétinoïque soit bien distribué. Alors, ces auteurs, je reviendrai là-dessus dans quelques minutes, ces auteurs décident de faire d'abord d'appliquer le même protocole qui avait été développé dans le laboratoire de Martinez Arias. Et vous voyez ici ce protocole avec, encore une fois, cet inhibiteur de la voie ROCK, le chiron. Avant l'agrégation, on agrège, on laisse pousser et on obtient ces gastruloïdes. Et vous voyez ici que, encore une fois, détection des marqueurs de la polarité. Vous voyez SOX2 postérieur, très postérieur, SOX17 très postérieur. Donc, encore une fois, ces gastruloïdes sont relativement bien faits. Mais vous voyez qu'ils ne vont pas très loin. Et on a des somites, on a du mésoderme somitique, on va avoir des dérivés ici, les NMP. Bah, je vous passe les détails. Hein. C'est très similaire aux formes, aux gastruloïdes que je vous ai montrés tout à l'heure. Et pour aller plus loin dans ce développement, c'est là justement que ces auteurs décident d'essayer de donner de l'acide rétinoïque et finissent avec un protocole, le protocole final qui consiste à enlever l'inhibiteur de la voie ROCK, à traiter au chiron les cellules avant agrégation, donc comme dans le protocole précédent, mais à faire ici un shot d'acide rétinoïque, un micromolaire, pendant à peu près une journée, on nettoie et on refait un traitement par la suite. Voilà. Alors là encore, vraiment aucune idée d'où sort ce protocole semi-empirique. Si le traitement n'est pas interrompu, ici, si on rajoute de l'acide rétinoïque et on laisse aller, bien, vous voyez que ça favorise légèrement l'élongation du gastruloïde, mais ça ne produit pas de tube neural ni de somite segmenté. Donc on n'arrive pas, même en traitant de façon continue, alors probablement que cela affecte trop ces cellules NMP. Hein, donc par contre, si vous laissez cette pause ici d'une journée, donc si vous faites ce traitement discontinu, alors là, le gastruloïde va s'allonger et faire apparaître non seulement un tube neural c'est donc le précurseur de la moelle épinière, hein, non seulement le tube neural, mais des somites qui vont être segmentés. Et on le voit ici, cette image qui est absolument étonnante, avec ici un tube neural que vous voyez là en coloration avec SOX1, et puis tous ces blocs-là qui sont en fait des blocs de mésoderme qui illustrent en quelque sorte une segmentation de type somitique. On peut prendre ces gastruloïdes, faire un séquençage en cellules uniques pour se poser la question, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Quels sont les types cellulaires que l'on trouve? Et on va trouver effectivement du tube neural, des somites, même, vous voyez ici, des myocytes, donc des cellules qui commencent à être différenciées. Mais il y a deux choses totalement remarquables. Premièrement, on voit ici des progéniteurs de cellules neurales qu'on ne voyait pas avant, donc on voit qu'on pousse avec cet acide rétinoïque, on pousse dans la différenciation de type neural. Et puis autre chose ici, alors ça c'est vraiment pour les spécialistes, mais on voit l'apparition d'un type de cellules qui sont extrêmement intéressantes, qui sont les cellules de la crête neurale, des cellules assez mystérieuses qui migrent pendant le développement du corps, et des cellules qui ont été extrêmement bien étudiées par Nicole Ledouarin, peut-être certains ou certaines d'entre vous ont eu l'occasion de suivre ces cours ici. Et donc, les auteurs concluent que, en utilisant ce protocole, avec ces deux traitements d'acide rétinoïque, on obtient des structures qui correspondent, en gros, à des embryons humains de stade Carnegie 11, donc, souvenez-vous, avant on était sur un stade 9, là on est sur un stade 11, qui correspond tout de même à quelque chose comme 25 jours de développement chez les humains. Mais là encore, il ne faut pas du tout vous imaginer une image du petit foetus humain de Carnegie, du stade Carnegie 11, parce qu'on est dans une partie postérieure. Hein, on est vraiment dans la partie qui va faire le corps sans avoir toute la partie antérieure, et en particulier le cerveau. Alors il y a une difficulté qui est mentionnée par ces auteurs d'ailleurs, à faire cette association entre les stades Carnegie et ce qu'on voit sur ces gastroloïdes, c'est que différents tissus au sein du même gastroloïde ont des temps différents. On va par exemple trouver un tissu de type mésoderme qui va correspondre à des types cellulaires d'un embryon de Carnegie stade 10. Mais à côté, on va trouver un tissu neural qui va correspondre à un embryon de stade 11. Ce qui vous montre en fait que la cohérence dans la croissance de ces gastroïdes n'est pas maximale, en fait. On a des choses qui poussent, mais de façon un petit peu chaotique, et les temps de pousse peuvent être différents pour les dérivés différents, finalement. C'est une remarque assez intéressante. Donc on voit que ces gastroïdes ne sont en fait que des représentations assez partielles, hein, d'embryons de souris ou d'humains. Et pourtant, comme je vous le disais au début de ce cours, ce sont probablement les embryoïdes qui sont les plus utilisés, en particulier à cause de cette absence de structure générale, parce que cette absence est compensée par cette possibilité de les utiliser en masse. On peut faire pousser ces gastroloïdes dans des plaques de 96 puits, hein, pratiquement autant qu'on veut, puisque la seule limitation, c'est les cellules ES, qui sont disponibles par millions. Donc il y a une quantité de production qui est pratiquement illimitée, et puis encore une fois, une possibilité de faire du staging, donc d'avoir des séries temporelles qui sont relativement précises. Et ça, c'est les deux choses qui sont absolument nécessaires pour faire des analyses qu'on appelle à haut débit, pour essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Et alors, à cet égard, en fait, on peut faire deux choses, finalement. On peut utiliser ces gastroloïdes pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire pour essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ces gastroloïdes. Pourquoi, par exemple, quand on fait ce deuxième pulse d'acide rétinoïque, on a des somites qui se forment, des condensations qui se forment. Si on fait le traitement en continu, ça ne se forme pas. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la raison? Ça, c'est une chose. Et puis la deuxième chose, c'est simplement d'utiliser ces gastroloïdes comme tube à essai. De se dire finalement, je m'en fiche un peu de ce qui se passe à l'intérieur. D'où sort le mésoderme? D'où sort l'ectoderme? Ce que j'aimerais, c'est utiliser ces objets pour répondre à une question à laquelle je ne peux pas répondre si j'utilise des modèles animaux. Et j'aimerais brièvement vous montrer un exemple de chaque. Le premier sera très rapide. Il implique une signalisation qui est extrêmement importante, une des plus importantes pendant le développement, qu'on appelle la voie de signalisation par les BMP. Alors BMP, ça vient de Bone Morphogenetic Protein, donc une protéine qui a un effet à l'origine dans la régénération de l'os. C'est comme ça qu'elle fut découverte dans les années 60-65. Voilà. Alors cette protéine BMP, depuis, eh bien, on s'est aperçu qu'elle fait partie d'une grande famille dont je vous ai parlé déjà de nombreuses fois, qui est cette famille des facteurs TGF-bêta. Hein, énormément de protéines qui sont parmi ces facteurs TGF-bêta. Et puis, ces protéines BMP vont en fait signaliser au travers de récepteurs membranaires. Cette fois, on est dans une situation classique. Vous allez avoir des récepteurs qui généralement sont des tétramères, donc les protéines BMP vont plutôt agir sous forme de dimères. Ils vont lier des récepteurs qui généralement sont des récepteurs tétramères, et puis une fois que ces récepteurs sont liés, cascade à l'intérieur de la cellule, cascade habituelle, et puis translocation de protéines qu'on appelle des SMAD, et c'est ces SMAD qui vont aller lier l'ADN. Avant, je vous parlais des récepteurs nucléaires, on est dans le même schéma mais avec des protéines différentes. Ces SMAD vont atterrir, reconnaître l'ADN est favoriser soit l'expression, soit la répression de gènes cibles. Une voie de signalisation tout à fait classique. Extrêmement importante pour le développement, et donc ces auteurs se disent, puisqu'on dispose de ces gastrulloïdes, ne pourrait-on pas faire une approche totalement unbiased, non biaisée, finalement, par laquelle on pourrait se dire, voilà, on va prendre deux cas de figure. Premier cas de figure, on va activer du BMP partout. On ne va pas chercher à faire dans la dentelle, on va simplement suractiver BMP partout. Et puis l'autre cas de figure, on va inhiber BMP partout. On pipette, hein, soit on rajoute du BMP, alors dans ce cas-là c'est du BMP4, c'est un BMP très important pour l'embryon. Et puis dans l'autre cas, on va mettre dans le milieu un inhibiteur de BMP. Donc on va avoir trois types de gastrulloïdes, des gastrulloïdes normaux, des gastrulloïdes dans lesquels toute la signalisation BMP aura été coupée par un inhibiteur, et des gastrulloïdes dans lesquels on va pousser l'activation BMP partout. On va pipeter. On va prendre ces gastrulloïdes à des temps différents, séquencer, encore une fois, séquencer les cellules uniques. Hein, on vient toujours à cette nouvelle approche expérimentale. Et la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'on va trouver comme cellules ? Qu'est-ce qu'on va trouver comme ARN ? Est-ce qu'il y a des ARN qui vont augmenter, des ARN qui vont diminuer ? Et puis ces ARN qui vont augmenter, diminuer, ils vont le faire dans quelle cellule ? Dans quel type cellulaire ? Et en faisant ça, une approche qui, à mon avis, a quand même le mérite d'être relativement objective. Hein, on se pose pas des questions, on va pas se dire on va travailler sur l'ectoderme. Non, là, on met tout et puis on regarde après ce qui se passe. Hein. Et donc, les auteurs vont terminer avec cette sorte de tableau dans lequel ils vont mettre au-dessus d'une sorte de phylogénie des types cellulaires, hein, du gastrulloïde. Vous voyez ici, vous avez les cellules souches au départ. Hein, et puis, ces cellules vont donner de la ligne primitive antérieure, de la ligne primitive postérieure. Ici, il va y avoir les NMP, ces cellules qui sont en bas. Donc, c'est un schéma classique binaire de différenciation de cellules, hein, pour les gastrulloïdes. Mais ce qui est important, c'est le bleu et le rouge. Et en rouge, vous voyez tous les passages entre des types cellulaires qui vont être favorisés en excès de BMP. D'accord ? Par exemple, vous allez avoir plus de cardiomyocytes produits par du mésoderme cardiaque si vous rajoutez du BMP. Conclusion, le BMP aide à faire ces cellules. Hein. Vous allez avoir, si vous avez des somites, ces condensations, hein, que je vous montrais, eh bien, en mettant du BMP, vous allez avoir plus de dérivés du myotome ici, que du sclérotome. Autrement dit, vous aurez plus tendance à faire des muscles qu'à faire des vertèbres. Hein? Et de fil en aiguille, comme ça, on peut commencer à reconstituer les endroits où cette molécule est utile et pas utile. Inversement, regardez, vous voyez que cette flèche bleue ici indique que quand vous êtes que BMP en fait a un effet négatif sur le renouvellement de ce pool de cellules souches, ces NMP. Autrement dit, quand vous bourrez le gastrulloïde de BMP, vous allez avoir moins de cellules NMP. Inversement, quand vous allez inhiber la signalisation, vous allez en avoir plus. Et cette approche vous permet donc d'avoir une sorte de vue globale, en fait, sur l'effet de ces molécules. Alors, on peut imaginer, on pourrait faire ça à des stades multiples, on pourrait faire ça avec toute une série de molécules de signalisation. Je suis d'ailleurs persuadé que c'est en train d'être fait. Hein. Et puis d'essayer de voir ensuite si certaines de ces molécules auraient des patterns rouge et bleu comparables. On pourrait se dire, ces molécules de signalisation probablement travaillent ensemble, puisque les deux sont capables de pousser ça, mais ne sont pas capables, etc. Donc on peut commencer à faire des corrélations, des associations. Moi, je trouve ça formidable. En fait, c'est vraiment une nouvelle façon d'approcher ce type de recherche. Puis le deuxième exemple que je voulais vous montrer, alors, touche à l'utilisation de ces gastrulloïdes chez la souris, cette fois, comme tube à essai. C'est-à-dire de se dire, ben, finalement, le gastrulloïde lui-même, peu importe. Ce qui m'importe, c'est de répondre à une question. Et la question à laquelle on a essayé dans ce cas particulier, puisqu'il est, c'est un cas que j'ai tiré de mon laboratoire, c'est ce problème du contrôle de la dose et de l'endroit où on va trouver de l'acide rétinoïque, qui est un problème vraiment fondamental, puisque, comme je vous le montrais tout à l'heure, si l'endroit où l'acide rétinoïque se trouve et la dose d'acide rétinoïque n'est pas correcte, on va directement vers un problème. Donc il y a une grande nécessité de bien contrôler ça, et surtout il y a une nécessité d'éviter, comme je vous le disais auparavant, d'éviter la présence ici d'acide rétinoïque dans les cellules d'NMP. Vous voyez ici, ces cellules d'NMP qui se trouvent là, hein, et donc cet endroit où il n'y a pas de réel DH, donc où l'acide rétinoïque n'est pas constamment produit. Cette frontière ici, elle est en grande partie fixée par cette enzyme CYP26. Et lorsque l'on regarde où cette enzyme est exprimée dans le gastrulloïde, eh bien vous voyez qu'elle correspond, antérieure, postérieure, voilà cette frontière ici. Donc cette enzyme, elle est exprimée dans les cellules qui sont les plus postérieures de ce gastrulloïde. On peut se demander, mais qu'est-ce qui fait que... Quels sont les contrôles? Qu'est-ce qui fait que cette enzyme est exprimée dans cette partie très restreinte? Ce n'est pas du tout trivial. Parce que si cette enzyme était exprimée jusque-là, problème. Ou si cette enzyme est exprimée un tout petit peu trop postérieure, problème. Parce que l'acide rétinoïque ne sera pas dégradé là où il doit être dégradé. Alors comment peut-on essayer de répondre à cette question? Eh bien, vous voyez ici, encore une fois, un espace de séquences de cellules uniques. Et ce que vous voyez là en bleu, c'est les cellules qui expriment cette enzyme CYP26. Qui exprime l'ARN qui va coder pour cette enzyme CYP26. Et on voit deux choses intéressantes. On voit d'abord, vous voyez, ces cellules, elles correspondent à ce gris-là. Ce gris, à quoi ça correspond? Au NMP, précoce et tardive. Donc on voit bien, avec ça, là encore, on n'est pas plus ou moins. Non, on voit que cette enzyme est présente dans les cellules NMP. Cette enzyme, elle est là comme gardienne, en fait, hein, pour éviter que l'acide rétinoïque ne viennent dans ces cellules. Puis la deuxième chose, c'est qu'on voit que c'est à 96 heures. Vous voyez ici qu'à 168 heures, on n'en a plus. Et puis avant, à 72 heures, on n'en a pas. Donc c'est une enzyme qui va arriver, qui est produite pendant un certain temps dans la partie postérieure, puis quand il n'y en a plus besoin, elle part. Alors ça, c'est intéressant. Parce que ces gastrulloïdes nous permettent maintenant de se poser la question temporelle, c'est-à-dire, est-ce que l'on peut voir quelque chose au niveau du locus génomique de CYP26, au niveau du chromosome où on a le gène CYP26, est-ce qu'on peut voir quelque chose qui changerait entre temps précoce, le temps où CYP est activé, et le temps tardif où CYP n'est plus activé? Parce qu'on a maintenant les trois points de référence. On a un point avant, un point pendant, où ça fonctionne, et un point après, où ça ne fonctionne plus. Et pour attaquer ça, on peut utiliser, alors c'est la dernière technologie que je vous balance comme ça, mais j'en ai déjà parlé au cours précédent, qui est cette possibilité qu'on a de voir où la chromatine est active. Ce qu'on appelle une approche par attaque sec, c'est simplement une façon de pouvoir séquencer l'ADN que là où il est accessible. La chromatine, c'est quelque chose, l'ADN, c'est quelque chose qui est enroulé, qui est inaccessible. Et lorsque vous voulez exprimer quelque chose, un gène, il faut que cette chromatine se relaxe pour que les protéines puissent venir lier et activer. Eh bien, on peut voir où cette chromatine est relaxée, en fait, par un truc biochimique dont j'ai décrit avec quelques détails l'année passée, donc je ne vais peut-être pas y revenir. Alors voilà à quoi ça ressemble. Vous avez ici trois lignes. Le gène CYP26, il est là. C'est ce petit rectangle ici. Et puis vous voyez qu'il y a plusieurs centaines de kilobases ici, qui est un désert génique, il n'y a pas de gène. Vous voyez, il n'y a aucune indication. Par contre, quand vous regardez l'accessibilité de la chromatine, à un stade précoce, intermédiaire ou tardif, eh bien, regardez par exemple ici, il n'y a pas de pic. Ici, vous voyez un petit pic qui apparaît. Ici, le pic est massif. Et ici, le pic disparaît. Autrement dit, on peut voir directement sur la chromatine un endroit, une séquence d'ADN, qui semble être inactive au moment où on n'a pas d'enzyme, qui semble devenir active par un pic au moment où on a l'enzyme, et au moment où l'ARN de l'enzyme disparaît, le pic disparaît. Donc ça, c'est une association qui est très forte et qui vraiment suggère que peut-être cette séquence est impliquée dans le contrôle de la fabrication de cet ARN de CYP26. D'accord ? Alors, la dernière chose qu'on peut faire quand on est à ce stade, eh bien, c'est simplement de prendre cette séquence d'ADN, puisqu'évidemment, on a la séquence. Hein. Donc, on fabrique un petit morceau, peut-être de 1000 paires de bases, qui contient cette séquence, qui contient ce pic. Et puis, on va placer cette séquence dans ce qu'on appelle un système de reporter. J'en ai aussi beaucoup parlé déjà. On va prendre un promoteur relativement quelconque. On va mettre derrière un gène qui produit une protéine fluorescente. Et puis en amont du promoteur, on va mettre cette séquence. Et donc la question qu'on pose, c'est cette séquence est-elle capable de dire au promoteur, de dire au gène, il faut que tu t'exprimes ici. Hein, c'est ce qu'on appelle un essai de reporter pour des séquences enhancer. Ça, c'était le travail d'Anaïs Sonnabek dans le laboratoire. Et je vais vous montrer... C'est la dernière chose que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, vous avez un gastruloïde, une agrégation de cellules avant le démarrage. Ce sont des cellules ES dans lesquelles on a introduit un transgène qui contient cette séquence particulière, un promoteur et une fluorescence. Donc si vous voyez de la fluorescence, ça veut dire que c'est cette petite séquence dans le locus CYP26 qui est capable de dire au gène maintenant il faut que tu t'actives. Voilà. Et je vous montre ici le développement de ce gastruloïde. Voilà. Vous voyez vraiment un signal très très fort qui est dans la partie postérieure, donc toute la partie antérieure est là. Qui est dans la partie postérieure. Cependant, c'est clair que cela ne récapitule pas entièrement le domaine d'ARN de CYP26. Souvenez-vous, je vous montrais tout à l'heure, le domaine de CYP26, il va se trouver dans la partie la plus postérieure ici. La plus postérieure. Hein ? Là, on voit que c'est dans la partie la plus postérieure, mais que la limite monte. La frontière monte, c'est trop antérieur. Et là, vous voyez qu'on commence à tomber sur une sorte de petit jeu mathématique où on a une séquence qui est positive, qui va activer, mais la fixation précise de la frontière n'est pas assurée par cette séquence. Alors, par quoi est-elle assurée ? Ben, probablement par d'autres séquences qui vont se trouver à côté, qui vont, elles, utiliser cette activation pour dire « Non, il faut rester plus bas, plus haut ». C'est un travail qui, chez la souris, prendrait des années. Et chez les gastruloïdes, bon espoir que d'ici quelques mois, on pourra comprendre ce qui se passe, puisqu'il suffit, entre guillemets, d'introduire ces séquences dans des transgènes, dans des cellules ES, qui peut être fait en quelques semaines, et de produire des gastruloïdes à partir de ces cellules ES. Voilà, c'est tout ce que je souhaitais vous dire sur les gastruloïdes. La semaine prochaine, dernière leçon, alors on va vraiment s'attaquer aux embryoïdes les plus élaborés, hein, ceux qui se rapprochent le plus d'embryons humains, ceux qui posent un certain nombre de problèmes, on discutera aussi si on a le temps, qui sont ce qu'on appelle les embryons intégrés. Et je me réjouis de vous revoir la semaine prochaine. Merci beaucoup.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.